7h24. Bonjour Ezequiel Fernandez.
Bonjour Lucas, bonjour à tous.
C'est l'heure de la revue de presse internationale et évidemment la disparition de Jeanne Moreau est à la une de nombreux journaux dans le monde.
Et la photo qui revient le plus souvent dans la presse internationale est extraite d'Eva, le film de Joseph Losey réalisé en 1962, la même année Fast, que Jules et Jim de François Truffaut. Une image associée à la mythologie du cinéma puisque Jeanne Moreau est surprise dans son bain. On devine son corps tandis que son beau visage se tourne vers l'objectif en une attitude de défi qui dément toute idée d'abandon, des mèches rebelles s'échappent de son chignon. Disparition d'une insoumise, titre le temps, sa voix grave et ravageuse, sa séduction troublante, sa personnalité insoumise et ses choix tout au long de sa carrière l'ont consacrée comme l'une des grandes stars françaises et internationales. Parmi les souvenirs égrenés, l'hôtel de Passe à Montmartre, où elle vivait avec des parents qui ne s'entendaient pas. Elle trouve alors une famille de substitution, raconte-t-elle, chez les prostituées qui venaient là. Elles ont été les premières spectatrices de ses succès au théâtre, à la Comédie Française. Et c'est d'ailleurs en jouant une prostituée qu'elle se fait remarquer dans une adaptation des Caves du Vatican d'André Gide. BBC News rend hommage à l'icône du cinéma français et star de Jules et Jim, des trois actrices françaises les plus emblématiques aux côtés de Catherine Deneuve et Brigitte Bardot. Elle était celle qui pouvait se prévaloir du plus beau parcours. Le cinéma français d'après-guerre est impensable sans elle. Tant de cinéastes essentiels lui doivent certains de leurs succès, parfois décisifs pour leur carrière. Louis Malle avec Ascenseur pour l'échafaud et Les Amants, Truffaut, Jules et Jim, Jacques Demy, La Baie des Anges, où elle affichait une surprenante blondeur. Son incomparable présence sensuelle était soutenue par une technique et un timing formidable, ce qui fait que tous les grands cinéastes ont souhaité travailler avec elle. Orson Welles, Michelangelo Antonioni, Joseph Losey, Luis Buñuel, entre autres. Elle incarnait peut-être l'équivalent féminin de ceux qu'Orson Welles appelait les acteurs rois, quelqu'un qui ne peut qu'être au centre de l'attention.
Le magazine américain Variety rappelle que Jeanne Moreau fit la couverture de Time dès 1965.
Rare, très rare, honneur pour une actrice étrangère, et elle était comparée d'ailleurs à l'époque à Greta Garbo et Marilyn Monroe. Depuis son accès au végétariat au milieu des années 50, elle a symbolisé quelques-uns des traits caractéristiques de la nouvelle vague. L'expression audacieuse d'une sexualité féminine et un esprit férocement indépendant. Variety rappelle aussi que sa carrière américaine n'a pas été à la hauteur de son talent. Si l'on excepte Le Train de John Frankenheimer avec Burt Lancaster ou Le Dernier Nabab d'Elia Kazan. En 1998, Hollywood lui rendit un hommage flamboyant, mais elle n'eut jamais l'occasion de prétendre à un Oscar comme Simone Signoret, que Jeanne Moreau a d'ailleurs dirigé dans l'un des deux films qu'elle a réalisé, L'Adolescente. L'article le plus profond est sans doute à lire dans les colonnes d'El País, sous la plume du critique de cinéma espagnol et ex-directeur du Festival de Saint-Sébastien, Diego Galán. Elle se lançait, écrit-il, dans des aventures risquées, n'hésitant pas à flirter avec l'irrationnel. Ne disait-elle pas elle-même « J'ouvre les portes à l'intuition parce que la rationalité, c'est vraiment la mort ». Diego Galán termine son évocation par un joli souvenir. Il se souvient d'un certain festival de Cannes il y a plus de 40 ans. Jeune journaliste, il prend rendez-vous avec Jeanne Moreau. Il est accompagné d'une collègue. Ils attendent la star dans le hall de l'hôtel où elle est descendue. Ils la voient arriver, prennent l'ascenseur avec elle, mais sans se présenter. Ils sont littéralement tétanisés. « Nous sommes restés dans l'ascenseur », raconte Diego Galán, « en silence ». Nous l'avons vue se diriger vers sa chambre, elle avait laissé derrière elle un parfum fascinant qui nous enveloppait, une sensation de magie que n'importe quel son aurait pu briser. Comme hypnotisés, nous sommes restés là, savourant la sensation que nous venions de vivre une expérience surnaturelle. Fin de citation. On ne saurait mieux rendre hommage à celle que son ami Orson Welles considérait comme la meilleure actrice au monde, qu'il dirigea dans plusieurs films, Le Procès, Falstaff, une histoire immortelle, un titre qui, ma foi, convient parfaitement pour conclure ce chapitre.
Tout autre sujet, dit toute petite journée, puis il s'en va, Anthony Scaramucci disparaît du paysage politique américain.
La tourmente s'aggrave à la Maison-Blanche, titre le Wall Street Journal. 10 jours seulement après son installation, exit le directeur de la communication. C'est le résultat de l'arrivée dans l'équipe Trump de John Kelly, le nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche. Cet ex-général des Marines, qui occupait jusqu'alors le poste de secrétaire à la sécurité intérieure, a exigé ce départ dans le souci d'imposer plus de discipline. On lui souhaite d'ailleurs bon courage. Le jeu des chaises musicales a tendance donc à s'accélérer. Anthony Scaramucci n'a plus aucun rôle au sein de l'administration présidentielle. La chute est rapide pour le sulfureux financier de Wall Street, qui s'est signalé par des propos tonitruants rapportés par un journaliste du New Yorker. Nous en avons fait état en fin de semaine dernière. Épisode relaté à nouveau par le Corriere della Sera, qui titre sur le nouveau licenciement intervenu à la Maison Blanche. On se souvient que Scaramucci menaçait de virer tout le monde dans le service de communication. Et bien, résultat des courses, c'est lui qui virait sans préavis des propos orduriers considérés comme inapproprié par le staff présidentiel, on appréciera l'euphémisme. Pour la chaîne américaine CNN, cette éviction est le dernier signe en date du chaos qui règne au sein de l'administration Trump. Un chaos qui donne une image déplorable de la démocratie américaine. Gageons qu'Orson Welles, dont nous parlions à propos de Jeanne Moreau, aurait savouré les relents shakespeariens de cette comédie du pouvoir dans laquelle on ne sait plus très bien d'ailleurs quelle est la frontière entre le roi et le bouffon, entre Henri IV et Falstaff.
Merci Ezequiel Fernandez, on vous retrouve demain.